Première partie, de la Tamise à la Garonne. On ne s'évade pas de la tour de Londres.
Un énorme corbeau, noir, luisant, monstrueux, presque aussi gros qu'une oie, sautillait devant le soupirail. Parfois il s'arrêtait, l'aile basse, la paupière faussement close, sur son petit œil rond, comme s'il allait dormir. Puis, soudain, détendant le bec, il cherchait à frapper les yeux d'homme qui brillaient derrière les barreaux du soupirail. Ses yeux gris, couleur de silex, semblaient attirer l'oiseau. Mais le prisonnier était vif et avait déjà reculé le visage. Alors le corbeau reprenait sa promenade par sauts pesants et courts. L'homme à présent sortait la main hors du soupirail, une belle main grande et longue, nerveuse, l'avançait ostensiblement, la laissait inerte, pareille à une branche sur la poussière du sol, attendant l'instant de saisir le corbeau par le cou. L'oiseau, lui aussi, était rapide en dépit de sa taille. Il s'écartait d'un bond, lançant un croassement enroué.
« Prends garde, Édouard, prends garde !»
dit l'homme derrière la grille du soupirail.
« Un jour je finirai bien par t'étrangler !»
Car le prisonnier avait donné à ce corbeau sournois le nom de son ennemi, le roi d'Angleterre. Il y avait 18 mois que le jeu durait. 18 mois que le corbeau visait les prunelles du détenu, 18 mois que le détenu avait envie d'étouffer l'oiseau noir, 18 mois que Roger Mortimer, 8e baron de Wigmore, grand seigneur des marches galloises et ex-lieutenant du roi en Irlande, était enfermé, en compagnie de son oncle Roger Mortimer de Chirk, ancien grand juge du pays de Galles, dans un cachot de la tour de Londres. L'usage eût voulu que les prisonniers d'un tel rang, qui appartenaient à la plus ancienne noblesse du royaume, fussent pourvus d'un logement décent. Mais le roi Édouard II, lorsqu'il s'était saisi en janvier 1322 après la bataille de Shrewsbury gagnée sur ses barons révoltés des deux Mortimer, leur avait assigné cette geôle étroite et basse, prenant son jour à ras du sol, dans les nouveaux bâtiments qu'il venait de faire construire à droite de la tour de la cloche. Obligé sous la pression de la cour, des évêques et du peuple même, de commuer en réclusion perpétuelle la peine de mort qu'il avait d'abord décrétée contre les Mortimer, le roi espérait bien que cette cellule malsaine, cette cave où les fronts touchaient le plafond, ferait à terme office de bourreau. De fait, si les 36 ans de Roger Mortimer de Wigmore avaient pu résister à pareille prison, en revanche, 18 mois de brume coulant par le soupirail ou de pluie suintant des murs ou de touffeurs épaisses stagnant au fond de ce trou durant la saison chaude, semblait avoir eu raison du vieux lord de Chirk. Perdant ses cheveux, perdant ses dents, les jambes enflées, les mains tordues de rhumatisme, l'aîné des Mortimer ne quittait presque plus la planche de chêne qui lui servait de lit, tandis que son neveu se tenait près du soupirail, les yeux tournés vers la lumière. C'était le 2e été qu'il passait dans ce réduit. Le jour, depuis 2 heures déjà, était levé sur la plus célèbre forteresse d'Angleterre, cœur du royaume et symbole de la puissance de ses princes, sur la tour blanche, construite par Guillaume le Conquérant et appuyée aux fondations même de l'ancien castrum romain, sur cet immense donjon carré, léger malgré ses proportions gigantesques, sur les tours d'enceinte et les murs crénelés dus à Richard Cœur de Lion, sur le logis du roi, sur la chapelle Saint-Pierre, sur la porte des traîtres. La journée serait chaude, pesante même, comme la veille l'avait été. Cela se devinait au soleil qui rosissait les pierres ainsi qu'à l'odeur de vase un peu écœurante montant des douves et de la Tamise toute proche, dont l'eau baignait le remblai des fossés. Le corbeau Édouard avait rejoint les autres corbeaux géants sur la pelouse tristement fameuse, le Green, où l'on installait le billot les jours d'exécution capitale. Les oiseaux y picoraient une herbe nourrie de sang des patriotes écossais, des criminels d'État, des favoris tombés en disgrâce. On ratissait le green, et on en balayait les chemins pavés sans que les corbeaux s'effarouchassent, car nul n'aurait osé toucher à ces animaux qui vivaient là, objet d'une vague superstition depuis des temps immémoriaux. Les soldats de la garde, sortant de leur logis, achevaient hâtivement de boucler leurs ceinturons ou leurs housseaux, coiffaient leurs chapeaux de fer, et se rassemblaient pour la parade quotidienne qui, ce matin, prenait une importance particulière, car on était le 1er août, jour de Saint-Pierre-es-Liens, auquel la chapelle était dédiée et fête annuelle de la tour. Les verrous grincèrent à la porte basse de la cellule. Le geôlier, porte-clé, ouvrit, jeta un regard à l'intérieur et laissa entrer le barbier. Celui-ci, un homme à petits yeux, à nez long, à bouche ronde, venait une fois la semaine raser Roger Mortimer le jeune. Pendant les mois d'hiver, cette opération était un supplice pour le prisonnier, car le constable Stephen Seagrave, gouverneur de la tour, avait déclaré « Si Lord Mortimer veut continuer d'être rasé, je lui enverrai donc le barbier, mais je n'ai pas d'obligation de lui fournir d'eau chaude. » Et Lord Mortimer avait tenu bon, d'abord pour défier le constable, ensuite parce que son ennemi exécré, le roi Édouard, portait une jolie barbe blonde, enfin et surtout pour lui-même, sachant que s'il cédait sur ce point, il s'abandonnerait progressivement à la déchéance physique.